lumière. Je ne regarde plus en arrière, mais toi sont devenues nouvelles, car Jésus est demeuré le même, et je marche à l'ombre de ses ailes. Jésus, tu nous offres l'espoir, tu es la lumière qui brille dans le noir. Dans la lumière, je ne regarde plus en arrière, mais droit devant moi, les yeux fixés sur la croix. Jésus, ma vie n'est plus la même. Sont devenues nouvelles, car Jésus est demeuré le même, et je marche à l'ombre de ses ailes. Jésus, tu nous offres l'espoir, tu es la lumière qui brille dans le
On va continuer un peu sur la lancée de la semaine passée, sans parler de l'intimidation, parce que j'avais préparé une série de trois messages sur le sujet. Donc, en prière, je me suis remis dans mon Seigneur, je fais-tu la deuxième partie? Et qu'est-ce que je fais avec la troisième partie? Et qu'est-ce que je ressens dans mon cœur, vraiment, cette paix de Dieu, en travers les messages, que Dieu va emporter de la guérison. Combien sont prêts à dire « Notre Église a besoin de guérison » ? Et ce matin, j'aimerais de tout mon cœur vous encourager à aller dans une nouvelle saison. Il y a des saisons, on va en parler. Si vous voulez, on va lire Exode, chapitre 15 et le verset 23. Hallelujah! Avant d'aller plus loin, ce soir, je sais qu'il annonce très, très beau l'après-midi, 31. Là, on va être tout en gagouine puis tout en petite culotte courte. Là, je comprends tout ça. C'est l'été, il fait beau, ces belles journées-là ne viennent pas souvent. Mais ce soir, la meilleure place, ça va être ici. On va prêcher, je vais enseigner ce soir sur le don du discernement des esprits. Un don qui est extrêmement important, un don qu'on devrait avoir. Et ce soir, on va prendre le temps de décortiquer le don, le discernement des esprits. Ce n'est pas juste pour les démons. Il y en a qui pensent que le discernement des esprits, c'est juste pour avoir des démons. Là. Voyons pas le démon partout, là. Oui, il est pas mal actif, mais le don sert aussi à autre chose que d'avoir des démons. Bon, on va en parler naturellement, mais soyez à l'écoute, venez, si vous pouvez venir, invitez des amis. Donc, on va prendre le temps, ce soit de regarder le don du discernement des esprits. Et je pense que, également, dans l'époque que nous sommes, nous avons besoin des dons du Saint-Esprit. Une église vivante est une église qui proclame les dons, qui exerce les dons spirituels. Alléluia! Le réveil, souvent, va commencer avec un don, avec des prophéties, des paroles de connaissance. Dieu active dans les dons. C'est sa présence qui vient également. Donc, je vous exhorte pour ce soir avec ça. Donc, on va lire le titre du message ce matin, c'est « Aux eaux de Mara ». Donc, Exode 15, verset 23, « Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire de l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. » Seigneur, on veut te remercier, on veut te rendre grâce en travers la louange, en travers tout ce que tu fais dans les parties les plus intimes du cœur. Seigneur, c'est toi le grand médecin. C'est toi qui l'as bâti, l'Église. C'est toi qui veut l'emmener plus loin. Père, je te prie ce matin de venir nous encourager, nous fortifier, de nous relever, de venir guérir ceux qui ont besoin de guérison ce matin. Père, que ta parole soit une parole encourageante et relevante, Seigneur, pour ton peuple. Et Seigneur, donne-moi la facilité, Seigneur, de donner ce message. Père, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Donc, pour mieux saisir, vous savez, le texte, le contexte, Dieu, vous savez, avait choisi Moïse pour délivrer son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Et Moïse était l'espoir des Hébreux pour la sortie de l'esclavage parce que Dieu accompagnait Moïse et Dieu l'a accompagné à travers la puissance. Dieu a envoyé 10 plaies fortes à l'Égypte et Dieu était vraiment en l'œuvre avec son peuple. Et également, ce peuple vivaient dans l'esclavage, comme on dit. Ils étaient accablés avec des gros travaux. Les Égyptiens, vous savez, sont servis des Hébreux pour bâtir les villes de Pithom et de Ramsès. C'est les Hébreux, en réalité, qui ont bâti ces villes-là, sur l'esclavage. Donc, plus les Hébreux se multipliaient, plus qu'ils s'accroissaient, plus qu'on les prenait en dégoût, les Égyptiens, et en réprimance, au point que les Égyptiens vont donner la vie de plus en plus dure au peuple israélien, et ils leur rendèrent la vie dure, la vie amère, par des travaux très difficiles, et par un quota de briques à faire à tous les jours, donc le travail de ramasser les pailles et tout ça. Mais comme ce n'était pas encore assez, le roi Pharaon a décidé d'enlever son peuple, les Égyptiens qui fournaient les Hébreux en paille. Donc maintenant, c'est les Hébreux qu'il faut qu'ils aillent chercher leur paille. Donc, il fallait qu'ils fassent le même quota de briques. Et en plus, il fallait qu'ils fassent encore plus de briques. Tu t'imagines, l'esclavage, elle est forte, les villes se bâtissent. On exigeait vraiment des Hébreux quelque chose de très difficile. Donc, c'est avec cruauté que le peuple hébreu a vécu. Mais un grand jour est arrivé. Le jour de la délivrance, on sait que le peuple est sorti de l'Égypte et on sait également qu'en travers l'Égypte, c'était la plus grande armée de l'époque. La plus grande armée de toute l'époque, c'était l'Égypte. Et Dieu, on sait, a ouvert la mer Rouge en deux. On connaît l'histoire. Et même le peuple marchait à sec dans la mer, mais quand le peuple égyptien, l'armée égyptienne est rentrée dedans, donc on sait que la mer, maintenant, s'est refermée. Donc, c'est tout un miracle. Dieu était au contrôle de son peuple. Croyez-vous encore ce matin que Dieu est au contrôle de son peuple? C'est le même Dieu. Hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé puis il ne changera jamais. Exode 15, chapitre 1, ils ont même fait un cantique. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Donc, il y a beaucoup de joie. Les Hébreux sont contents, ils sont délivrés. Nous servons ce Dieu de miracles. Alléluia! Mais immédiatement, après cette grande délivrance, Israël a commencé à voyager dans le désert. Et pendant 3 jours, ils ont fait à peu près 60 kilomètres. Et ils ont tardé, ils ont réalisé qu'ils tournaient un peu en rond, qu'ils avaient fait en réalité 18 kilomètres. Et ça n'a pas pris grand temps pour que ce peuple descende de leur louange, pour atteindre les profondeurs du désespoir. On va développer. Et dans le désert de soif. On a chaud, là, puis on est dehors, puis il fait chaud, on boit. Est-ce que c'est vrai? T'imagines, trois jours au gros soleil, tu as besoin de boire. Et il y a des gens qui ont vu une source d'eau, et quand ils ont vu la source d'eau, les gens ont couru pour aller boire l'eau. Et une fois qu'ils sont arrivés là, ils ont plongé la tête dans l'eau, mais en même temps, ces gens ont recraché l'eau parce qu'elle est amère, elle n'est pas bonne, l'eau est mauvaise. Écoutez bien, il y a entre 2 et 4 millions de personnes dans le désert, et en plus du bétail, les moutons, les chèvres, donc les gens ont besoin d'eau. L'Éternel, écoutez bien, ça va être ça que je veux parler ce matin, a conduit délibérément, je dirais, le peuple à Mara où Dieu voulait qu'il soit. On va aller loin ce matin. On va regarder les choses assez précises. Donc, Dieu est au contrôle. Dieu emporte le peuple à Mara pour les éprouver et leur faire apprendre à lui faire confiance. Exode. Lisons verset 15, verset 23 et 24. Revenons sur le verset. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmurait contre Moïse en disant, « Que boirions-nous? » Ces mêmes gens qui sont réjouis de voir la gloire de Dieu avant, ont commencé à se plaindre contre Moïse, ces mêmes gens qui ont vu la gloire de Dieu à travers les 10 plaies, donc les mêmes gens qui ont vu la mer rouge s'ouvrir, et ces mêmes gens ont commencé à critiquer. Ils ont oublié qui était déjà Dieu. Ça ne perd pas grand-chose pour l'oublier. Allô? Quand on a eu une bénédiction, on oublie vite la bénédiction. Je ne sais pas si c'est pour vous. Ça a fallu trois jours pour commencer à douter de Dieu. Ce peuple aurait dû repenser de la façon que Dieu les a délivrés, au lieu, parce que Dieu veut les amener, veut l'emporter la bénédiction. Ils se lamentaient la question, pourquoi Dieu amène son peuple à Mara? Il y a des raisons. Et quand on lit la Bible, des fois, on ne comprend pas tout. Mais quand tu commences à étudier, tu rentres dans la profondeur, tu commences à réaliser que la Bible, c'est plein de détails. Tu sais, des petits détails d'un bord. Il y a des messages que j'ai prêchés plusieurs fois, puis je me dis, hey, j'ai oublié ce bout-là encore. C'est plein de détails, la parole de Dieu. Mara, ça veut dire amertume. Et l'amertume, c'est une personne qui est irritée, qui vit avec la déception. Et si le peuple vit dans une déception, ils sont déjà irrités de leur passé. En plus, ils manquent d'eau. Le Seigneur les amène à Mara pour travailler le cœur. Le cœur de ce peuple est lourd, il est chargé, il est fatigué, il est épuisé de l'esclavage de l'Égypte. Leur cœur est amer du passé. Ce peuple est épuisé physiquement, moralement et spirituellement. Vous savez, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu contrôle toutes choses. Puis je vais leur dire encore, s'ils arrivent à Mara, c'est que Dieu veut qu'ils arrivent à Mara. Dieu voit la souffrance. Dieu voit l'amertume. Son peuple ne peut pas aller plus loin. Ce peuple a besoin d'être restauré. Il a besoin d'être relevé. Il a besoin d'être libéré, d'être guéri de son passé. Alors, on a besoin dans la vie de guérir et de passer dans des nouvelles saisons. Et d'apprendre à faire confiance à Dieu qui est notre libérateur, qui veut que nous passions de nouvelles saisons. Tu ne peux pas rester dans le passé toute ta vie. Dis avec moi, je ne peux pas. Tu ne peux pas rester là. Tu dois avancer, malgré les congos, malgré les luttes. Comme aujourd'hui, vous savez, j'ai pris quelques illustrations. Il y a des passages où que parfois nous passons par Mara, où nous devrons apprendre à faire confiance au Seigneur. Vous savez, la vie nous réserve bien des surprises et qui nous font mal par un moment donné. Ça peut être un enfant qui a été très malade, ça peut être un enfant très rebelle également, ça peut être un mariage qui n'a pas bien été, que ce soit des problèmes financiers, un échec professionnel, que ce soit de la trahison avec un ami quand nous avons confiance, la perte d'un être cher, soit des divisions d'église, de la rancune, de la haine, de la médisance, qui fait un effet sur nos âmes, des gens qu'on aime, des gens qui sont partis, et cela, ça vient nous affecter. Est-ce que c'est vrai? On passe à Mara. C'est dur, c'est amer, c'est difficile. Quelles qu'elles soient nos eaux amères, nous avons tous besoin d'en tirer des leçons. Sinon, on va rester comme le peuple d'Israël dans le désert. Soit de rester prisonnier de nos pensées de l'esclavage, de rester dans l'amertume et de rentrer et de rester dans le passé, qui fait qu'on ne recevra jamais la guérison intérieure. Il y a beaucoup de gens qui souffrent à cause même, je vais en parler à la fin, qui souffrent à cause du non-pardon dans leur vie. Si l'esprit, votre esprit, ne change pas de position, vous resterez toujours prisonnier de vos pensées. Le peuple est sorti de l'Égypte, il commence une nouvelle vie sans l'esclavage. Maintenant, c'est Dieu qui les guide dans une colonne de feu le jour, une colonne de nuée le jour, une colonne de feu le soir, mais le Seigneur contrôle. Mais ce peuple est lourd et chargé. Ils veulent vivre, ils vivent encore avec cette mentalité de l'Égypte. Mais le plan de Dieu, écoutez bien, est de restaurer le peuple pour l'amener à la guérison. Combien croient ce matin que vous avez besoin de guérison et de délivrance? Combien croient ce matin que l'Église doit aller dans une nouvelle saison? Combien le croient? Je crois à ces choses-là. Ça fait longtemps, ça fait un an et demi que je suis avec vous. Je vois l'évolution, je vois les choses passer. Je t'en prie, Seigneur, donne-moi qu'est-ce que le peuple a besoin. Et les choses, et ce matin, c'est clair dans ma tête, il doit y avoir des nouvelles saisons qui doivent prendre place. Tu ne peux pas rester où vous êtes là. Ça, c'est clair pour moi. Soit émotionnellement, soit spirituellement, ou soit physique, tu as besoin de guérison. Dieu veut amener son peuple à la pleine liberté. Qu'il soit heureux, qu'il soit un peuple qui s'épanouit, un peuple qui va avoir de la joie. Alléluia! Vous savez, Jésus veut nous donner une image de qui nous sommes. Jésus désire que nous découvrons qui nous sommes, notre identité. Alléluia! C'est important ces sujets-là parce que bien des gens sont chrétiens et ils ne savent même pas c'est quoi être chrétien. C'est quoi l'image d'un chrétien? C'est quoi ta nouvelle identité? Jésus est venu pour nous libérer des jougs. Est-ce que c'est vrai? Jésus dit, mon joug est doux et léger. Donc, on sait, on vous l'a enseigné souvent, ces choses-là. L'animal, il avait un gros morceau de bois sur le cou. Et quand il était fatigué, à la fin de journée, il fallait enlever le joug parce que l'animal était fatigué. Jésus fait la même chose. Quand on est fatigué, quand on se confie en lui, Jésus a des promesses de libération. Des promesses de délivrance, des promesses de guérison spirituelle, physique et morale. Il faut y croire. Il faut reconnaître ses besoins. Et ça commence avec une vie de l'Esprit. Sans le Saint-Esprit dans l'Église, c'est impossible qu'avoir vos guérisons. Vous ne faites pas de la religion, mais vous êtes appelés dans une relation. Amen. Amen. Alléluia! Vous savez, une personne qui est blessée, on a rencontré beaucoup, on a été nous-mêmes blessés. Qu'est-ce qui sort de nos bouches? Des gens qui murmurent tout le temps. Des gens amers. Des gens qui critiquent surtout. Je ne sais pas pourquoi ils critiquent. Tant de critiquer, ils continuent à critiquer. Ils sont mécontents de tout. Ils se plaignent toujours, jamais contents. Ils ne sont pas prêts à accorder le pardon. Ils sont poignés. Des gens qui restent sur leur position, qui ne changent pas et qui veulent garder leur contrôle. Ce que je dis, aussi longtemps que tu restes dans ton esclavage et dans tes positions, c'est comme le peuple de Dieu, tu vas tourner dans le désert. Allô? Dieu a une terre promise pour chacun de nous. Tu t'imagines, mon ami, ce matin, 40 ans tourner dans le désert. Tu t'imagines 40 ans sans t'épanouir dans la grâce de Dieu? 40 ans toujours chialer par murmurer. C'est-tu fatigant? Allô? C'est-tu fatigant toujours entendre les gens se plaindre et se plaindre et se plaindre et se plaindre et se plaindre? Change de tune. Vous savez, la bonne nouvelle, Jésus-Christ ne veut pas qu'on réagisse en esclavage, mais d'être libre de l'Égypte. Parce que vous avez été racheté à un grand prix. Ce que je dis, je dois me comporter comme un racheté de la grâce de Dieu. Le pouvoir de la croix n'a pas simplement réglé le pardon de nos péchés, mais il a changé ma nature profonde. Il a tout changé dans ma vie. Le sang-Lui a changé ma vie au complet, au point que nous sommes devenus, selon Pierre, 2 Pierre 1, 4, 2 Pierre 1, 4, vous êtes devenus, il faut juste prendre la dernière partie, participants de la nature divine. Wow, t'es pas n'importe qui, là. Dis à ton frère, je suis pas n'importe qui, moi. Non, je suis pas n'importe qui. Alléluia, je porte la nature divine dans ma vie. Allô? Je suis pas n'importe qui. Et notre nature même est habitée par le Saint-Esprit, alléluia, qui fait que je dois marcher de gloire en gloire, de progrès en progrès et de délivrance en délivrance. Alléluia. Donc, soit tu vas porter les fruits de l'Esprit, puis tu vas porter aussi les dons de l'Esprit. La nature divine m'apprend à délaisser les choses de ce monde pour rechercher les choses d'en haut, rechercher la justice de Dieu, car notre nature est divine. Paul nous cite que nous sommes des nouvelles créatures. La vie ancienne, elle est morte. Êtes-vous mort? Est-ce que votre vieille nature est morte? Ou elle nage encore? Pile-moi sa grosse orteille, tu vas voir que je ne suis pas mort. Commencez à vous frotter, vous allez voir que votre chair n'est pas morte. Est-ce que c'est vrai? C'est la nature humaine. Mais pourtant, on doit mourir. Oh, mourir, toute une affaire, mourir, hein? Laisse-moi dire qu'on vit dans la puissance du ressuscité. Chaque enfant de Dieu, le Seigneur entreprend dans vos vies un travail de restauration et de guérison et de délivrance. Dites-moi un gros amen. Moi, j'ai vécu des années, je vous dis honnêtement, que j'ai pleuré plus souvent qu'à mon tour. J'ai eu besoin de guérison, j'ai eu besoin de délivrance, et j'ai voulu que je me refasse une nouvelle image parce que j'étais un gars à terre. On n'est pas exempt de ces choses-là. Jésus veut nous amener à sa ressemblance. La vie chrétienne, c'est pas toujours facile, mais il dit chaque jour suffit sa peine. Si nous le faisons, si nous marchons dans la foi en notre Seigneur Jésus, quelles que soient vos circonstances, nous verrons la bénédiction et la guérison venir. J'aimerais dire en tant qu'enfant de Dieu également que nous sommes co-héritiers de la grâce de Dieu et dans son amour pour le peuple. Ici, le cœur de Dieu pour son peuple, c'est qu'il veut accorder une nouvelle révélation de son amour pour eux. Quand le peuple est arrivé à Maroc, Dieu va diriger Moïse à aller couper un bois pour le jeter dans l'eau. Lisons Exode 15, 25. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devient douce, et ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il mit à l'épreuve. Juste avant d'aller plus loin, il y a des saisons dans la vie, dans vos vies, et des saisons dans la vie de l'Église. Lisons Ecclésiaste, chapitre 3. On va lire le verset 1, verset 3, 4 et 8. Verset 1. Il y a un temps pour toutes choses, un temps pour toutes choses sur les cieux. Verset 3, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Verset 4, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Verset 8, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Il y a des saisons. On appelle ça des saisons. Ce que je dis ce matin, il y a des périodes, il y a des saisons, et je le répète, soit dans vos vies ou soit dans la vie de l'Église, il y a un temps pour toutes choses. des saisons joyeuses, il y a des saisons douloureuses. Mais Jésus veut abattre ces choses-là. Je crois de tout cœur, vraiment, de tout mon cœur. Si l'Église, et je vous parle d'un matin, c'est ça que je reçois comme message, si l'Église veut vivre une nouvelle saison en tant que corps de Jésus-Christ, le temps est à la guérison. Et je le répète, vous n'irez pas plus loin si vous n'êtes pas capable entre vous de vous accorder. Il n'y aura pas de place pour vous dans la chicane. Ce n'est pas le plan du Seigneur. Ce n'est pas le plan de Dieu. Je vais le répéter. Une église connaît des saisons, je le répète. Comme le peuple d'Israël qui est à Mara, elle a besoin d'être soignée, d'être guérie pour continuer l'œuvre de Jésus-Christ. Sinon, tu vas faire du surplace et jamais tu vas rentrer dans la terre promise. Ce peuple a délaissé, ce peuple doit délaisser, je le dis bien, son passé pour avancer. C'est un gros message que je vous donne un matin. C'est un message, mon frère, que vous réécoutez, je dirais même. C'est sérieux. Je crois que Edmundston doit vivre autre chose à un moment donné. Elle a besoin d'être guérie. Tu ne peux pas vivre dans le passé, et je le répète. Écoutez bien, il faut apprendre de son passé. Et de ne pas revenir en arrière du passé. Il y a des choses qu'il faut délaisser, mais rien n'est impossible à Dieu. Si vous êtes prêt à cela, soit vous laissez soigner et diriger par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu, qui est esprit, vie et vérité, c'est-à-dire d'être humble devant Dieu, être prêt à écouter et repentant et de réaliser que vous avez besoin de son aide. De réaliser également que le Seigneur permet l'épreuve de la saison. Si vous êtes là, parce que Dieu permet que vous soyez là. Tout aussi simple que ça. Soit qu'il le fait. Savez-vous pourquoi il a fait ça avec Israël? C'est qu'il veut emporter des changements dans le cœur, dans les attitudes et dans les comportements. Allô? Ça vous parle-tu un petit peu? Dieu est un Dieu de changement. Le rôle du Saint-Esprit, c'est d'amener l'unité dans une vie d'Église et d'enlever les racines amères de notre vie et la vie de la communauté. C'est-à-dire de ne plus vivre avec votre passé, mais de regarder vers l'avant pour entrer dans une nouvelle saison. Mais pour cela, il faut que le cœur soit soigné. Alléluia! C'est clair, hein? Et pour cela, il faut lui faire confiance. Des fois, on se parle, moi et Mano. Mano, on dit, lâche prise, Serge, lâche prise. Moi, j'étais un tenace, là. T'es un gars, quelqu'un qui prend le morceau, là. Mano, on dit, calme, calme, lâche prise, Serge, lâche. Pas facile, lâcher prise, hein? Je sais pas si c'est pour vous, là, mais des fois, il faut que je lâche prise. C'est la même chose. Je me souviens, mon père, quand ma mère est décédée, il revenait. Ça a duré un an et demi, deux ans. Puis, une année, je dis, père, change de tonne. Et puis là, refais ta vie. Vis quelque chose de différent. Reçois ta guérison. Reste pas dans le passé, vis dans le présent. Allô? L'Église, c'est la même chose. Ah, puis pour vivre dans le passé, on est dans le présent. Mais apprends du passé pour vivre ton présent. Jésus dit, je bâtirai mon Église. Alléluia. Et sans l'onction du Saint-Esprit, ça devient impossible. Jésus ne bâtit pas notre vie, c'est une religion, mais c'est une relation. Il est l'architecte de l'Église et c'est lui qui doit la diriger, l'Église. C'est à nous d'être à l'écoute. Vous savez, le désert, c'est pénible. Le désert, c'est souffrant, c'est décourageant. Mais quand le Saint-Esprit est bienvenu, il vient briser les jougs de nos vies. Le Saint-Esprit, il est celui qui emporte la guérison. C'est pas l'homme. L'homme peut t'aider, mais la vraie guérison, les vrais délivrants, ça vient du Saint-Esprit. Alléluia! Il n'y a pas d'autre personne qui peut changer ta vie un matin. On peut être compréhensif, on peut entendre des choses, mais la vraie délivrance vient du Saint-Esprit. Il vient faire éclater les jougs de notre vie. Comme les Juifs qui vivaient encore dans cette mentalité de l'esclavage, Et cela, ça doit changer. Leur pensée doit être renversée pour renverser les forteresses de l'ennemi pour faire tomber les murs de Jéricho. Si le peuple hébreu veut continuer pour entrer dans la terre promise, leur mentalité doit changer. Fort, hein? Très. Dieu ne les a pas emmenés à Mara là, pour le plaisir. Hey, je t'emmène à Mara, puis ça me tente de te donner ça dur. Là, tu sais, là. Dieu amène un peuple pour la guérison. Je crois que c'est le temps pour vous à cela. Je le ressens fortement. Je reçois vraiment cet amour de Dieu pour vous. Vraiment que Dieu veut emporter du changement et de la guérison. Combien sont d'accord? Seigneur, on a besoin de vivre autre chose. Alléluia! Vous savez, Jésus n'est pas juste venu nous donner son amour, mais également la restauration. J'aimerais parler d'un deuxième point. Dans le livre de Néhémie, un livre que j'affectionne beaucoup, Dieu va donner la force à Néhémie et la sagesse pour rebâtir les murailles qui ont été détruites, pour reconstruire les murailles de Jérusalem, parce que les murailles sont à terre. Donc, il faut reconstruire. Et des fois, nos vies sont comme ça. Il faut reconstruire nos vies. Mais l'amour de Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais pour reconstruire, je vais vous donner quelques clés. Je pense que tous les pasteurs, peu importe les ministres, vont vous dire la même chose. Pour reconstruire, Néhémie a été confronté à de gros problèmes. La murale est en ruine, on rebâtit. Et la première chose, ce leader inspirant qui est Néhémie, la première chose qu'il va faire, qu'il va rallier ses compatriotes ensemble. Néhémie 3.20. Nous, et Néhémie 3.20, ouais. Oh, en tout cas, vous me croyez, là. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Dans Néhémie. Si Dieu permet les choses, Dieu permet aussi qu'on travaille ensemble. Si on veut sortir de nos temps de faiblesse ou de difficulté, il faut s'unir et travailler dans la même direction, premièrement. Il faut deuxièmement se donner la main d'association, comme Néhémie va le faire avec ses serviteurs. Pour travailler à la reconstruction des murs, il faut être dans la même direction. Allô? Et être prêt de mettre de côté nos différends pour s'unir dans l'unité. Je ne suis peut-être pas tout d'accord avec ce que je vous dis. Donc, c'est d'être un ensemble. Je vais aller plus loin. Nous voyons le leadership de cet homme. Ça prend une personne qui était déterminée pour rebâtir. Il ne le ferait pas seul, comme je viens de dire, il le fait en équipe. C'est des gens qui tirent la corde ensemble, du même côté. Tire pas de l'autre côté, là. C'est là qu'on perd notre temps. Il faut tirer ensemble. On tire ensemble. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mes opinions ne sont pas toutes d'accord, mais je vais participer, je veux que mon église avance. Allô? On n'est pas des clones d'un à l'autre. Alléluia! Et il faut tirer sur le même sens et démontrer de l'humilité que nous n'avons pas tous les mêmes capacités, qu'on n'a pas tous les mêmes dons, on n'a pas tous le même appel, mais ensemble on peut réussir. Dis avec moi, ensemble on peut réussir. Combien le croient? Ensemble on peut réussir. C'est l'unité. Quand l'onction du Saint-Esprit se manifeste, l'esprit d'unité se manifeste. Là, je vais aller encore plus loin dans ma pensée. Quand cet esprit d'unité vient, ça emporte le pardon, ça emporte l'amour et l'unité pour rebâtir. Mais aussi, il y aura toujours de l'opposition quand une église change de saison. Néhémie 4, j'espère que c'est bon, là. Néhémie 4, versets 1 et 2. Néhémie 4, versets 1 et 2. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions les murailles, la muraille, il fut en colère et très irrité, il se moquait des Juifs. Il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisseront-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consommées par le feu? » C'est gros, hein? C'est gros, là. Voilà la position de l'ennemi. Cet homme-là, Sambala, c'est un gouverneur. Ces gens s'opposent à la reconstruction des murailles de Jérusalem. Ces gens pensent que les Juifs sont incapables de rebâtir les murailles. Comme bien des gens qui vont dire qu'une église qui a souffert, qu'une église qui a perdu ses lettres de noblesse, sera impossible de se relever. Il y a trop de ça, il y a trop de ci, il y a trop de cela. Des gens ne croient plus que l'Esprit de Dieu peut révéler des anciennes ruines. Wow! C'est excitant. Dieu reconstruit, Dieu rebâtit, Dieu remet sa grâce, Dieu vous donne la capacité. Dieu est en train de dire, lâche pas mon homme, t'es capable, lâche pas ma fille, t'es capable, hallelujah. Ensemble, on va y aller, ensemble, on t'élimine, ensemble, on renverse l'ennemi, ensemble, on va être plus fort que tout ça, ensemble! Et ces gens se moquent des Juifs. Ils veulent les intimider. Et ça, c'est la pensée de l'homme. Mais la pensée de Dieu est autre chose. Les pensées de Dieu sont pas nos pensées. Néhémie, le peuple, est exposé aux menaces, à la moquerie. Mais pour les amener au découragement, à la peur, il y a l'intimidation. Il y aura toujours des gens qui vont s'opposer à l'avancement du royaume de Dieu. Mais le caractère de Néhémie, fantastique. Cet homme a de la sagesse, cet homme a de l'audace. Néhémie 4.4. Lisons ensemble. Néhémie 4.4. Écoute notre Dieu. Ça part par où? Par la prière. Écoute notre Dieu, car nous sommes méprisés. Il dit, fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils sont captifs. Néhémie, dans sa prière, dit, écoute Dieu, on a des sérieux problèmes. Mais Néhémie, c'est par la foi en Dieu qu'il va confronter le découragement, la peur qui était réduite à néant par l'ennemi. Cela s'est manifesté par la puissance de la prière, des prières ferventes, des prières de foi. Cet homme encourage le peuple de Dieu, prépare le peuple de Dieu à lutter contre son ennemi. La prière de Néhémie, elle est forte, elle est puissante. Ô Dieu, nous sommes méprisés. Vous savez, une plus belle prière que ça? Un cœur nu devant Dieu. On est à bout, Seigneur, on n'est plus capable. Ô Dieu, agis. Dieu combat pour nous. Wow! Ça vous arrive-tu de prier comme ça? Alléluia! Dieu combat pour nous. Fais retomber les insultes sur notre tête. Néhémie dit en réalité, là, tout ce qu'ils nous ont fait, fais-le retomber sur notre tête. Psaume 18, verset 38, verset 40. Il dit, je poursuis mes ennemis, je les atteins, je ne reviens pas avant les avoir anéantis, je les brise, ils ne peuvent se relever, ils tombent sur mes pieds, tu ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. Alléluia. David ne se laisse pas non plus intimider, il apprend l'adversité, il veut une victoire, son désir, c'est que l'ennemi soit sous ses pieds, il demande à Dieu la force de cet exploit. Combien sont prêts à dire à matin, moi je veux m'en aller comme ça, je veux une victoire sur mon ennemi, je veux voir mon église grandir, je veux voir des nouveaux rentrés, je veux voir les guérisons, je veux voir des baptêmes, je veux voir la joie. Alléluia. Néhémie, une prière puissante qui renverse l'intimidation, la crainte et la peur. Le Saint-Esprit, son désir, c'est de rebâtir. Dis avec moi, rebâtir. Si vous êtes capable de matin à partir avec ce mot rebâtir, votre mentalité va commencer à changer. Tu vas arrêter de voir noir, tu vas arrêter de critiquer, tu vas arrêter de chialer, mais tu vas dire, on va mettre la main à la pâte puis on va rebâtir ensemble. Wow! Nous sommes dans une guerre. Néhémie 4.8. Nous prions notre Dieu et nous établissons une garde jour et nuit pour nous défendre contre les attaques. Nous voyons ici un homme de stratégie. Il va mettre des gardes jour et nuit. Si l'ennemi vient, ces gardes-là vont voir l'ennemi arriver. Ce que j'aime de ces gardes, c'est des sentinelles. Ésaïe 26, 6. « Car ainsi m'a parlé le Seigneur, va, place la sentinelle qu'elle annonce et qu'elle verra. Si l'ennemi approche, les gardiens, les sentinelles qui veillent et surveillent vont voir l'ennemi arriver. Cela, ça nous parle des intercesseurs ou des intercesseuses qui sont là pour aider le peuple à être avec eux. Alléluia! Des gens qui ont le cœur de Dieu, des gens qui surveillent, des gens qui entendent la voix de Dieu, qui nous avertissent des dangers. Avons-nous ici même des intercesseurs et des intercessrices? C'est la plus grande force ce matin, c'est cela, d'avoir des gens qui intercèdent, qui ont à cœur leur Église. Alléluia! Avons-nous cela? Sinon, je vous le dis, là, je vous parle au comité, mettez-vous des gens sur la prière. Mettez des intercesseurs. C'est des guerriers qui sont en avant de vous. C'est des gens de force. Ils ne te voient pas, mais qui prient devant Dieu, qui jeûnent, qui pleurent, qui implorent la grâce de Dieu. On ne les voit pas, mais il y a un effet. Savez-vous, tantôt on parlait de l'Église de Québec, l'Église du Frère Houd, naturellement. Savez-vous, quand Claude Houd prêche, il y a 400 personnes en arrière de lui qui prient. Savez-vous ça? Les grandes croisades d'évangélisation avec Billy Graham, il y avait au-dessus de 1000 personnes qui priaient pour cet homme-là pendant qu'il prêchait. Les intercesseurs, vous voyez les foules qui couraient parce que le Saint-Esprit agissait, accompagnait avec la force et la puissance à travers les intercesseurs. Oh, mes amis, on a tellement à apprendre du livre de Néhémie. Je dirais encore plus que ça. Néhémie, chapitre 4, verset 14. « Je regardais, m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats, au reste du peuple, ne le craignez point, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » Verset 17, « Ceux qui bâtissent la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une main de l'autre. » C'est assez fort quand même. Hein? « Et chacun d'eux travaillait même avec une épée. » Alléluia. Et si l'ennemi vient, premièrement, on va être averti, puis on va être prêt. Alléluia. Souvenez-vous que Dieu est grand et puissant. Alléluia. Il y a une sentinelle qui surveille. Combien sont prêts à dire avec moi matin? Moi, j'aimerais ça être une sentinelle. Levez vos mains, là. Je vois vos mains, là. Combien sont prêts à dire, là, un matin par semaine, on vient à l'Église, ou deux jours par semaine, on s'unit, on jeûne, on prie, voici les sujets. Combien sont prêts? Même faire des nuits de prière. Les frères africains, c'est des spécialistes en ça, là. Avoir des gens qui ont le cœur de Dieu. Je vous le dis, je n'ai même pas besoin d'être un prophète pour dire ça, votre Église va évoluer. Ils travaillaient d'une main, ils tenaient l'arme de l'autre main. C'est assez complet, hein? Laissez-moi vous dire également, cet homme a eu la sagesse, il a mis son peuple en sécurité, il a eu face à la détermination, l'Église qui prie, qui jeûne, qui surveille, qui a des stratégies, va vaincre son adversaire. Allô? La sagesse de Dieu va diriger le combat dans la foi. Quand nous sommes dans la même direction, la prière du juste a une grande efficacité. Je crois de tout cœur. Ésaïe, je vais avancer rapidement, là. Ésaïe 58, verset 12 et 13. « On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins qui rend le pays habitable. » Celui qui restaure les chemins qui rend le pays habitable. Un réparateur, c'est quelqu'un qui répare qu'est-ce qui est brisé. Donc, il vient pour restaurer. C'est comme un ébéniste, hein, quand vous emportez vos vieux meubles sur l'ébéniste, il va les remettre à neuf. C'est ça, l'affaire. Et ça nous dit, mais... Pour vous, Malachie 4, 2, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous vos ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Bon. Je crois également, je suis persuadé, on n'a pas besoin de se le dire, de cacher de cachette, là. Les années n'ont pas été de tout repos. Est-ce que c'est vrai? Vous n'avez vécu des bonnes vagues, hein? Allô? Non, dites l'amen, c'est vrai, là. Tout le monde est, hein? On n'a rien à se cacher, là. Peu importe. Moi, je vais dire ceci un matin. Peu importe ce qui s'est passé. On ne peut pas changer le passé, mais on peut changer l'avenir. Est-ce que c'est vrai? Même si tu critiqueras sur le passé, ça ne va pas changer grand-chose. Si tu ne mets pas la charrue à la main, tu vas rester là. Dieu est un Dieu de restauration et un Dieu de guérison. Si vous avez la crainte de Dieu, soit la crainte de Dieu, c'est de lui plaire, et c'est de détester le péché, de déplaire à Dieu en réalité. Et la crainte de Dieu, c'est d'être à l'écoute et appliquer la parole. Pas juste un bout de parole qui me plaît, là. Vous entendez, là? La parole, là. Quand on parle de la parole, il est écrit, là. Bien, il est écrit. Change pas les contextes, là. Tu sais, les gens, aujourd'hui, ça prend des textes, puis ça prend les hors contextes, puis ça dissipe. Non, c'est pas ça, la vérité. Quand on marche avec Dieu, on marche avec la parole qui est droite. Alléluia. Et la parole qui est droite, donc, quand on l'applique, si tu as besoin de demander pardon à quelqu'un, va demander pardon. Applique ce que la parole de Dieu t'applique. La guérison viendra et les blessures du passé vont se cicatriser. Alléluia. Plusieurs raisons font que les fois que le peuple n'avance pas, et je le dis ce matin, que vous soyez une église, un frère, une sœur, ne peut pas vivre dans l'épanouissement spirituel aussi longtemps qu'elle ne reçoit pas sa guérison. Vous allez dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il a mangé maintenant? Il n'a rien mangé, là. Ah, ça fait assez d'années qu'on travaille comme ouvrier dans l'œuvre de Dieu, là. Je sais de quoi je vous parle, là. L'Église, c'est le cœur de Dieu en Jésus-Christ. C'est lui qui l'a inventé par le Saint-Esprit. Et c'est la puissance du Saint-Esprit par lui qu'on peut recevoir la guérison. C'est par lui également qu'on peut retrouver sa santé spirituelle et retrouver l'unité. La bonne nouvelle, selon Malachie, si la guérison vient, la joie vient. Quelqu'un qui guérit, c'est quelqu'un qui va parler de sa guérison. Moi, je sais, j'ai passé un cancer, là, pas quelque temps, là. Puis quand j'avais des bonnes nouvelles, je le disais à tout le monde, « Oh, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Oh, merci Seigneur, ça va bien. » On témoigne. Est-ce que c'est vrai? Tu as des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, ça met de la joie. Alléluia. Quand la joie est là, l'unité est là. L'épanouissement se fait sentir. Malachie 4:2, vous sortirez, vous sauterez comme des veaux d'une étable. Avez-vous, j'ai vu sur Internet, il n'y a pas longtemps, des veaux, ça faisait 6 mois qu'ils étaient dans une étable. Quand ils ont sorti de l'étable, ils sont à fofolle. Les 4 pattes dans les airs, mon ami, puis ça se promenait autour de... Ils sont à contents. Il t'a libéré. Alléluia. Il y avait de la joie. Voulez-vous sortir de vos enclos? Alléluia. D'avoir de la joie? Alléluia, Jésus. Mais voici la condition. Je vais terminer avec ce dernier point. Il reste 5 minutes, là. Exode 15, versets 25 et 26. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devient douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois, des ordonnances, et ce fut là qu'il fut mis à l'épreuve. Et il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te ferai prix d'aucune maladie. » Vous allez dire, c'est l'Ancien Testament, mais c'est pareil avec le Nouveau Testament. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. C'est Tamara qu'on découvre le cœur de Dieu. C'est Tamara qu'on découvre le Yahvé Rapha, qu'on appelle, qui veut dire l'Éternel qui guérit. Et laisse-moi dire, le mot guérison ici est employé qui signifie réparer et recoudre. C'est-à-dire, c'est l'idée que les pêcheurs allaient à la pêche, que les filets étaient brisés, il fallait les recoudre pour les réparer. Donc, dans ce sens-là. Par amour, par Jésus. Jésus est venu réparer les filets de nos vies. Ils ont peut-être laissé des trous, il y a peut-être eu des choses qui sont arrivées dans votre vie, mais le Seigneur veut, hallelujah, recoudre. Combien le croit? Combien ont besoin d'être recousus? En tout cas, moi, je lève ma main, là. À des places, là, ça a été difficile. difficile. Mais l'amour de Dieu, c'est de guérir nos cœurs. Dieu ne fait pas de favoritiste. Dis avec moi, il ne fait pas de favoritiste. Il n'y a pas de place au jugement dans l'Église. Dis-le avec moi, il n'y a pas de place au jugement entre mes frères et mes sœurs. Il n'y a pas de cela, ça ne doit pas se manifester. On a tous à apprendre. Jésus, dans son amour, est prêt pour vous. Voulez-vous vivre un renouveau spirituel? Un matin, j'avais demandé à notre sœur Solange de chanter le chant « Dans ses bras d'amour ». Ça va peut-être vous chatouiller un peu les oreilles, là. Quand le renouveau est arrivé, on comprend, là, et qu'il y a eu des nouveaux chants. Il y avait de l'amour, il y avait de la joie, il y avait des belles choses. On retrouvait des nouveaux chants. Je ne vous dis pas que j'étais d'accord avec tout, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il y a eu quelque chose, il y a eu un impact dans ma vie où que je sentais un cœur à cœur avec papa. Un cœur d'amour, alléluia, qui est venu me visiter. J'étais contre certaines manifestations, je serais toujours contre certaines manifestations. Mais dans mon cœur, il y avait des chants nouveaux. Il y avait une présence de Dieu que je n'avais pas goûté de cette façon-là. Vivre un renouveau spirituel, l'amour dans une église commence par le pardon. Oh, c'est silencieux. Ça commence par un pardon. Soyez humbles. Il y a des gens ici qui ont été blessés là, de mille et une façons. Là. On ne rentre pas dans tout ça, là. Mais soyez assez humbles pour régler ça. Combien sont prêts à dire avec moi? Je pile sur mon orgueil un matin, là. Puis je suis prêt à passer au pardon. Combien sont prêts, là? Soyez ça demande de l'humilité, là. Ça demande d'écraser ta personne, là. Mais c'est libérateur. Ça fait du bien, ça dégage. Jésus nous a pardonné, n'est-ce pas? Jésus nous a pardonné des chaînes de l'enfer. Le pardon libère et on. Puis je dirais souvent aux gens qui ont des problèmes, fais donc la paix avec toi aussi. À ton tour, va pardonner, va libérer l'autre aussi. Jésus vient pour réparer. Par affection pour la parole de Dieu. Jésus, Moïse a jeté le bois dans l'eau. Et suite à cela, La parole nous dit que l'eau est devenue douce, symbole de rafraîchissement. L'eau, c'est le symbole du rafraîchissement. L'eau représente le nettoyage. Croyez-vous ce matin, je vais terminer dans quelques secondes, que le Saint-Esprit peut rafraîchir nos âmes fatiguées et épuisées du combat? Allô? Combien le croient? Je parle d'un nouvel élan ce matin, là. Je suis en train de vous dire, êtes-vous prêt pour un nouvel élan? Pour une nouvelle saison. Je vais aller encore un peu plus loin. Tout cela arrive parfois par manque de maturité entre nous. On se fait mal entre nous. Souvent, on manque pas, on n'a pas le tact pour dire les choses. Mais l'amour de Dieu, c'est qu'il vient nettoyer, il vient restaurer. Qu'est-ce qui vous a blessé? Qu'est-ce qui vous a déçu? Je vais continuer, je vais terminer. Je dirais que le bois, le symbole de la croix. Je me souviens, moi j'étais sur les cheveux à peu près ici, hein, Manon, à l'époque, et j'avais toujours les yeux rouges pochés. Mais quand Jésus m'a visité, j'ai été libéré de cela. La croix, c'est la victoire sur votre ennemi. Écoutez bien, je vais terminer. Jésus veut guérir toute eau amère de votre vie, que ce soit votre colère, que ce soit votre haine, que ce soit votre rancune, que ce soit votre déception, que ce soit votre tristesse intérieure, que ce soit votre médisance, que ce soit votre manque de pardon. Croyez que le Seigneur a une nouvelle saison si tu es prêt à marcher avec lui. Alléluia! Donc, je termine. La réalité du texte qu'on a lu, Mara, c'est que Dieu est venu pour changer le cœur. Si tu ne veux pas changer de cœur, ben reste dans le désert. Allô? Ça t'appartient. Si tu veux tourner dans le rond, tourne dans le rond. Mais si tu veux avancer, donne-lui la main d'association. Et tu vas voir les choses vont changer. Combien sont prêts à dire, Ben ça, c'est vrai, on a besoin d'aller plus loin. Alléluia. Dieu guérit le passé. Il guérit l'esprit d'échec, l'esprit d'intimidation, l'esprit de malédiction et l'esprit de condamnation. Vous voulez vivre une nouvelle saison? Êtes-vous prêt à délaisser votre passé et entrer dans cette saison? Les nouvelles saisons commencent et j'ai terminé soit par un changement de cœur, soit par une repentance intérieure. Et si on est prêt, mes amis, à passer là ce matin, je vous garantis, dans un an, votre Église ne sera plus jamais pareille. Êtes-vous prêt?
Amen.
Êtes-vous prêt? Amen. Vraiment prêt? À dire, Seigneur, ce matin, change nos cœurs. On veut avancer.
Amen.
Moi, en tout cas, c'est mon cœur pour vous. C'est vraiment mon désir pour vous. C'est pas pour vous. Je ne donne pas des messages comme ça pour vous faire plaisir. Je les prêche au bout des pieds parce que j'ai peur. Et je dis à Manon, je ne sais jamais si je vais sortir de là lapidé ou vivant. Manon me dit, prêche le message que Dieu te donne. Et c'est ça que je fais un matin. Depuis quelques semaines, Dieu me coach à certains niveaux. Et Kleenex vit bien parce que je pleure beaucoup. On dit qu'un homme ne pleure pas, mais en tout cas, dans mon cas, ce n'est pas le cas. C'est assez sensible. Mais ce matin, découvrons en nous l'amour du Père à travers l'œuvre de la croix et qui veut changer l'eau en mer en eau douce. On va se lever. Je vais demander si les musiciens ont de la force, le courage. On va chanter le beau chant dans un chant d'amour. Alléluia.